Bravo et merci.
Bienvenue à vous, bravo et merci. Éric Berger, célèbre grâce à un autre prénom, Tanguy, qu'il incarna dans les comédies d'Étienne Chatiliez en 2001 et 2019. Éric Berger, enregistré en février 2021, en tournée au théâtre à Luxembourg avec l'excellente pièce de Rasmus Lindberg, Habiter le temps, dans laquelle Éric avec un C incarne Éric avec un K et forme avec Irène Jacob un couple en pleine crise qui les mènera à un événement tragique qui lui-même aura des répercussions sur les générations futures. Éric Berger, enregistré dans le restaurant vide de l'hôtel Mama Shelter à Luxembourg.
Bravo et merci.
Thierry Georges.
Éric Berger, je suis venu vous rejoindre par un froid scandinave à votre hôtel à Luxembourg. C'est assez raccord avec la pièce que vous jouez, Habiter le temps, de Rasmus Lindberg. On est dans la tradition du théâtre scandinave avec ses histoires familiales. C'est une histoire familiale sur trois générations. Mais première question, toute simple et toute bête, ça fait comment d'être sur scène au théâtre face à un vrai public en février 2021 alors que 99,99, je ne sais pas combien, % des comédiens français ne le sont pas?
Hélas, ça fait une impression assez fabuleuse. Dès notre sortie du train, arrivé à la gare de Luxembourg, on était déjà en train de se demander ce qui nous arrivait. On n'arrivait pas à y croire nous-mêmes. On venait de voyager et même... dans un pays étranger. Et puis alors après, quand on est arrivé au théâtre, oui, on n'en revenait pas. Après, on reprend très vite ses habitudes, ses réflexes professionnels, si je puis dire. Mais il y a quand même, et hier, c'est pareil, au moment où on annonce l'entrée du public en salle.
C'est presque des mots, c'est un peu surréaliste.
Ouais. Hein. Ouais, non, mais vraiment, vraiment, ça paraît être des choses d'un autre monde. On s'est senti extrêmement privilégié d'avoir le droit de faire ça. Ce qui est vraiment... le fait de se sentir privilégié, d'avoir le droit de faire ça, c'est quand même très violent.
Et d'habiter la scène pour habiter le temps. Cela dit, juste avant qu'on enregistre, vous me disiez que vous aviez les résultats des tests. Il y a bien sûr des contrôles réguliers.
Moi, j'ai cru naïvement qu'on nous contrôler pour protéger les gens du théâtre et puis pour la représentation de ce soir. En fait, non, on est contrôlé pour savoir si on rentre en France ou pas, parce que là, si on avait été positif, on n'aurait, je pense, pas eu le droit de rentrer en France. En tout cas, pas par le train, ouais. Peut-être par d'autres chemins.
Mais vous auriez eu le droit de jouer quand même.
Je n'ai pas tout à fait la réponse. C'est quand même curieux parce qu'on a joué hier.
Ouais.
On n'avait pas de test et on aurait pu être tous ou positifs ou quelques-uns positifs, etc. Donc oui, je pense que de toute façon, on aurait pu... on aurait été peut-être discret, on aurait pu jouer de toute façon, ouais.
Christine, l'eau du thé est chaude, on ne pourrait pas...
Non, ne change pas de sujet, je veux savoir où tu les as cachés, et je veux le savoir maintenant.
Je ne change pas de sujet, je tiens juste de l'eau bouillante dans les mains, et je ne crois pas que... Qu'est-ce que j'aurais caché?
Les lettres, bien sûr.
On va dire un petit mot de cette pièce parce que c'était vraiment la première hier soir dans cette mise en scène de Michel Didim qui était dans la salle. Je pensais qu'il allait venir saluer à la fin, mais il est resté dans la salle avec le public. C'était la première vraiment représentation. Ouais. Je sais que vous avez déjà joué face à des étudiants, etc., ou des pros, mais c'était la première représentation avec un vrai, entre guillemets, public.
Oui, officiellement, oui. La création avait lieu aujourd'hui. Normalement, la création aurait dû avoir lieu à Nancy le 15 décembre, mais on sait pourquoi et ça n'a pas pu se faire. Et donc voilà,
Très heureux de le faire hier. Vous allez jouer ce soir encore.
Ouais.
Et puis, vous allez hiberner à nouveau?
Bah oui, jusqu'à la prochaine annonce. A priori, on devrait le reprendre à Nancy quand même, puisque c'était quand même le théâtre, c'est l'endroit de création, c'est avec la manufacture, le CDN de Nancy Lorraine qui a produit le spectacle, enfin entre autres, hein, pardon.
Ouais, il y a coproducteurs.
Voilà, il y a plein de coproducteurs, mais c'est chez eux qu'on devait le créer. Donc voilà, peut-être on verra au mois d'avril, mi-avril, 13 avril, si on peut jouer là-bas.
Mais c'est une pièce qui mérite une longue vie sur scène, je trouve. Enfin, Merci. Ça fait longtemps que je n'avais pas été aussi surpris, étonné tout au long du spectacle. Alors, je vais essayer d'expliquer, vous allez m'aider, en faisant simple. Hein. C'est une pièce avec 6 personnages, on pourrait dire 3 duos. Il y a Christine et Éric, Éric c'est vous, on est en 1913. Oui. Il y a Stéphane et Caroline, nous sommes en 1954. Et puis, il y a Myriam et Annele, on est dans une période beaucoup plus contemporaine.
De nos jours.
De nos jours. Donc, ouais. Ça veut dire qu'il y a 6 personnages, 6 acteurs sur scène, mais qui vont fonctionner en binôme, presque sur la totalité de la pièce. Les échanges se font avec votre partenaire de binôme.
Oui.
C'est une mécanique, je trouve, mais incroyable.
Hein. Infernale même.
Infernale.
Alors, vous avez raison, c'est vraiment, en fait, il y a trois petites pièces. Ce que vous avez dit, 1913, c'est 68, en fait, c'est pas 54.
C'est 68.
1913, 68, et on va dire, a priori, c'était 2014, mais on va dire que c'est de nos jours. Mmh. Sauf que tout a lieu en même temps sur scène. Les trois histoires ont lieu en même temps.
Six personnages sont sur scène. Voilà, les six acteurs sont sur scène.
Donc, elles doivent se croiser. On ne répond qu'à son partenaire, mais finalement, il y a des échos intradimensionnels qui traversent l'espace et le temps. Et voilà, c'est une histoire sur la transgénération, si on peut dire, sur l'héritage.
Avec des drames familiaux. Avec des drames familiaux.
Oui. C'est suédois. Hein. Donc, il y a des drames familiaux. Mais Rasmus Lindberg le traite autrement parce que c'est très joli de voir qu'il est vraiment... L'héritier s'inscrit vraiment dans une tradition, Strindberg, Lars Noren, etc., avec l'histoire de la psychologie familiale, etc., très forte. Mais il le détourne un petit peu parce qu'il y a quand même chez lui quelque chose de très rythmique, d'un petit peu décalé aussi. C'est-à-dire qu'il s'inscrit vraiment dans la tradition, mais il l'ironise un tout petit peu, même si ça reste très sérieux, très grave, etc. Mais on voit bien qu'il a du recul là-dessus et qu'il porte un regard sur cette tradition. Ouais, bon. C'est très beau à voir. Et pour nous, c'est infernal. Quand je dis infernal, parce que ça nous demande un effort, nous comédiens, insensé, parce qu'on joue avec sa partenaire, mais on a un temps de réplique physiquement qui n'est pas le même, puisqu'il faut laisser le temps
aux autres
de circuler.
Là, vous faites des gestes pour montrer un peu les autres partenaires, les quatre autres personnages.
Exactement, et ce temps-là dans le corps, il a fallu le régler, le décaler aussi, ça nous a demandé des efforts insensés.
Mais je pense, parce que pour continuer à expliquer un peu ce projet fou, c'est-à-dire que vous êtes à l'écoute des autres acteurs qui sont sur scène, donc on peut à peine peut-être appeler vos partenaires, mais ils sont sur scène avec vous. Et vous ne les regardez pas parce que vos regards vont vers votre...
Bah oui, normalement, ils n'existent pas.
Donc, ils n'existent pas. Ouais. Et vous devez démarrer au quart de tour quand ils ont terminé.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a, je pense, une concentration qui est... profonde. Enfin, vous ne pouvez pas avoir un moment d'inattention et c'est foutu.
Non, c'est tout de suite la sortie de piste s'il y a un moment d'inattention. Et en répétition, c'était très, très fatigant à tenir parce que quand il y a une personne qui commet une erreur, qui se plante, il y a cinq personnes qui s'arrêtent. C'est-à-dire tout le spectacle s'arrête quand une seule personne s'arrête. Donc ça a été très, très... Il fallait remettre tout en route à chaque fois. On disait, on va reprendre là. Oui, mais attends, là, c'est quoi ? Oui, mais moi, je parle quand ? Après ou avant ? Ah oui, non, c'est ce moment-là, on n'est pas plus haut. D'accord, allez, bon, on y va, c'est bon. Et ça a été très, très, très éprouvant. Ouais, c'est une gymnastique. Ouais. Mais le résultat est assez fabuleux parce qu'on est 6 sur scène et on tient à 6. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis un sixième du spectacle. Mes camarades le savent aussi. Et on se tient tous ensemble. Il y a un truc, on ne peut pas s'en sortir sans les cinq autres.
Effectivement, ce que je peux ajouter, c'est souvent dans une pièce, il y a les rôles principaux et les rôles secondaires. Là, il y a six rôles principaux.
Ouais, vraiment six rôles principaux et vraiment six acteurs au travail avec la même quantité de travail. Et c'est vraiment agréable de savoir qu'on est on est une troupe.
Écoute ça.
Ne mets pas trop fort. Tu vas réveiller le petit.
Et on commence en faisant un pas en arrière.
Je crois qu'on commence en faisant un pas en arrière.
Je crois qu'on commence en faisant un pas en arrière.
Aïe!
Pardon.
Ce n'est pas grave.
Ce n'est pas grave. On commence, mais je suis pas le mec.
Non,
je suis
pas le mec.
Bon, vous avez un peu de bouteille, un peu de métier, hein, Éric Berger, quand même. Ouais. Mais est-ce que c'est un des projets les plus, prenants, forts que vous avez vécu au théâtre jusqu'à présent ?
Oui, et puis alors, en plus, le contexte le définit comme ça, en plus. Mais c'est un projet fort. C'est un projet fort à plein de niveaux, parce que j'aime vraiment beaucoup cette pièce. Je trouve qu'elle est vraiment... Je sais pas, techniquement très très bien écrite. On l'avait lu déjà, et en la mettant au travail à l'épreuve de la scène, on se rend compte à quel point des efforts qui ont été faits. Ouais. Alors après, j'ai demandé à la traductrice à Marianne si Rasmus Lindberg avait déjà monté sa pièce. Alors oui, il l'a monté sa pièce lui-même. Donc on sait que c'est une écriture qui a déjà passé l'épreuve du plateau, comme Molière ou Shakespeare, je ne sais quoi, mais elle a déjà eu lieu sur le plateau et elle a été corrigée à partir du travail de plateau.
Ouais.
Mais oui, c'est une expérience forte. Ouais. Ouais.
Alors, je vous ai probablement vu il y a quelques années, c'était en 1997, sur la scène du Théâtre de la Manufacture à Nancy, parce que j'ai vu que vous étiez dans la distribution du Misanthrope qu'avait mis en scène Charles Torgemann. Oui. C'était avec Serge Maggiani, si je me souviens bien.
Et Grégoire Ostermann.
Très franchement, je ne me souviens pas du tout de vous.
Je faisais un des marquis. Faisais Clitandre, un des deux marquis. C'est un souvenir formidable. Formidable parce que j'y ai croisé des acteurs que j'admirais, que ce soit Daniel Martin, Grégoire Osterman, Gianni Gastaldi, Serge Maggiani. Puis je débutais un peu, je sortais pas du conservatoire. Ça faisait déjà 2 ans que j'étais sorti du conservatoire, mais j'étais JTN, comme on dit. J'étais très impressionné par les acteurs que je croisais. Et j'étais très heureux à Nancy, à la Manufacture.
Et vous avez retrouvé Charles Torgemann pour un cabaret Valentin.
Plus tard,
quelques années plus tard,
deux
avec
ans plus
Daniel
tard, ouais.
Martin.
Exactement, aussi. Grégoire Osterman aussi. Jean-Claude
Jégué,
Philippe
Frottin. J'ai vu d'ailleurs tardivement dans la série Ainsi soit-il. Ouais. Je joue le rôle d'un évêque, d'ailleurs.
J'ai été très heureux là-bas. J'aime beaucoup Nancy, j'y suis très attaché.
Ouais. Alors, c'est une pièce sur 3 générations, Habiter le temps. Et j'ai pensé à vos 3 générations, à vous et à la figure de votre grand-père, Maurice Berger.
Ah oui.
Est mort en déportation, il est mort dans un camp de concentration, mais oui. Alors il avait survécu à Auschwitz, à Buchenwald,
oui.
Et puis il est mort la veille de la libération de ce camp.
Exactement la veille, oui. Cela dit, il est mort la veille, c'est triste, il aurait pu être libéré, mais vu l'état dans lequel il était, il serait mort quelques temps plus tard.
Hein. Ouais. Donc votre grand-père, qui est un juste des nations,
oui.
Qui a sauvé des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, comment avez-vous grandi? Alors, il était gendarme, c'est ça?
Oui,
j'ai vu la photo, donc
oui, c'est ça,
l'uniforme.
Oui, oui.
Il était officier
de
gendarmerie.
Il était commandant de gendarmerie. C'est un homme de droit qui a désobéi.
Bon, alors, il est mort en 1945.
Oui, le 27 avril.
Comment avez-vous grandi, vous, avec la figure, cette figure-là de votre grand-père?
C'est récent, en fait. C'est quelque chose que... Enfin, l'histoire... J'ai toujours su que mon grand-père, que je ne l'avais jamais connu parce qu'il était mort à la guerre,
oui.
Prisonnier des Allemands, etc. Mais le fond de l'histoire, je l'ai découvert que très tard parce que j'ai perdu... Enfin, bon, c'est compliqué à raconter, mais pendant un moment, j'ai perdu mon père de vue. Donc, en fait, je n'ai pas grandi avec cette histoire. Ce
n'est pas une histoire qu'on vous a racontée,
non,
gamin?
Non, elle était lointaine. Je savais que mon grand-père était mort à la guerre, prisonnier des Allemands. Bon, c'est tout, etc. Et c'est plus tard, quand j'ai retrouvé mon père, j'étais déjà bien adulte. Et puis il m'a raconté cette cérémonie du Yad Vashem. Et là, tout d'un coup, j'ai commencé à me pencher sur les archives. Alors mon oncle aussi, le grand frère de mon père, qui était lui-même gendarme, avait beaucoup d'archives qu'il m'a fait lire. Donc j'ai lu beaucoup de témoignages, de choses comme ça sur le travail de mon grand-père. Et puis sur sa déportation, son arrestation, sa déportation, etc.
Il y a une rue à Riom, hein, c'est ça qui porte
oui, son oui, nom. La rue Maurice Berger. Oui. Il y a eu une promotion d'un escadron de gendarmerie qui s'est appelé une promotion qui s'est appelée la promotion Maurice Berger. Je ne sais pas comment vous dire, c'est tellement admirable. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est...
Parce que vous êtes le grand-père, vous, finalement.
Oui,
dans la pièce.
Oui, ça, c'est moi le grand-père. Oui, je ne sais pas, bon, on n'est pas... Je dois être même un peu plus vieux que ce qu'il a été, puisque lui, en 1913, il devait avoir 12-13 ans, je pense.
Êtes-vous allé vous-même voir toute cette liste des noms des justes à Yad Vashem?
Non seulement j'y suis allé, mais j'ai emmené mes enfants pour qu'ils voient le nom d'un de leurs ancêtres sur ce mur.
Ouais,
c'est
une visite très forte, Yad Vashem.
Oui, enfin, pour moi, ça l'est, parce que je crois que j'ai assez de recul pour mesurer ce que c'est. Et puis, il y a 24 ans qui me séparent de la fin de la guerre. Ces 24 ans-là, ça fait longtemps que je les ai passés. Et je vois que c'est un temps très court. Donc finalement, avec le recul, je me suis rendu compte que je n'étais pas si loin de cette histoire-là. Que cette histoire-là était encore très présente. Et voilà, ça me bouleverse.
Oh, merveilleux.
Wow. Christine, je t'aime.
Oh, tu es...
On ne laissera plus jamais rien se mettre entre nous. Je vais prendre ces maudites lettres. Et je vais les éradiquer, comme on éradique les infections.
Bravo et merci Éric Berger. Suite enregistrée à Luxembourg, en tournée avec la pièce Habiter le temps. Le prénom associé à la carrière d'Éric Berger, c'est Tanguy.
Bravo et merci.
Thierry Georges.
Vous parliez de 24 ans, Éric Berger, 20 ans. C'est un anniversaire en 2021?
Ouais, c'est un anniversaire. Ça sera un anniversaire au mois de novembre.
Les 20 ans de Tanguy.
Ouais. Ouais, mmh. Ouais, exactement.
Impossible de vous rencontrer sans parler de Tanguy.
Ah bah non,
c'est totalement impossible.
Bah,
hein.
Tant mieux.
Alors là, impossible. Si on raconte un petit peu comment vous avez obtenu le rôle, vous dites avoir dû beaucoup bosser. Enfin, on vous l'a pas offert comme ça.
Non, c'est à l'ancienne, quoi. J'ai fait le casting et j'ai rencontré Étienne la première fois au mois de juin. Et puis il a passé tout l'été à faire tout un tas de casting. Et puis on a fait des seconds essais. Et puis une dernière partie d'essais qui était avec André Dussolier, justement. Et puis voilà, non, ça a été assez long. Il a fallu 3-4 mois avant que Étienne Chatillez me rappelle pour me dire que j'avais le rôle.
Et vous saviez que la liste se réduisait s'il y avait tant qu'il y était.
Non, parce
qu'une liste.
Sur une chose pareille, on y va. C'est d'abord un coup de poker. Et puis on se dit, bon, bah, On a l'honneur d'être appelé pour ce casting, alors on est fiers et on y va, et puis on essaie d'y aller comme il faut, mais oui. Après, voilà, on sait que c'est le jeu, hein, c'est la roulette.
Et en même temps, avant, on ne peut pas savoir quel va être le destin du film, non. Et le fait que 20 ans plus tard, on en parle toujours.
Oui, exactement. Il a vraiment fallu, non, on ne le savait pas. On savait qu'on était heureux de le faire, on savait qu'on faisait, on avait quand même à un moment, pendant qu'on le faisait, la conscience de faire plutôt quelque chose de pas mal. Ça se voyait dans l'ambiance du film, sur nos visages, sur le plaisir qu'on avait à être ensemble. Le pari d'Étienne, c'était de prendre un acteur inconnu et de voir si ça allait marcher avec André Dussolier et Sabine Azéma.
Et Dussolier, vos parents, qui eux avaient déjà un sacré parcours,
ouais,
avec René notamment.
Entre autres, oui. Puis un parcours d'amitié forte entre eux. Quoi. Ils sont très liés. Et,
mais vous ont-ils adopté ?
Mais oui, tout de suite. Tout de suite.
Étiez-vous impressionné ?
Très impressionné. J'avais rencontré André pour les essais. Et après, quand il a fallu rencontrer Sabine, j'étais tellement intimidé. J'ai demandé à la costumière avec qui on avait déjà fait, Elisabeth Tavernier, avec qui on avait déjà fait des essais. Je lui ai dit, écoute, pour le dîner au restaurant avec Sabine, prête-moi les costumes du film. Juste pour ce... Je voulais arriver dans le costume de Tanguy, je voulais pousser la porte et que Sabine me regarde en disant, ah oui, c'est lui, c'est vraiment lui. Qu'elle ait aucun doute, aucun recul sur ce qu'elle voyait.
Ouais, mais j'ai lu que vous aviez affiché chez vous, enfin je ne sais pas si c'était dans votre chambre,
ouais, ouais.
Les dialogues du film que vous aviez appris, mais vraiment...
Oui.
Comme le texte d'ailleurs d'Habiter le temps, c'est-à-dire au minimum,
cordeau,
savez, ouais, ouais. Au cordeau.
Ouais, parce que en fait, donc Étienne, j'étais en tournée à Nancy d'ailleurs. Étienne m'appelle et il me dit c'est vous qui avez le rôle. À cette époque, on se vous voyait.
Ouais.
Alors donc pendant, je pense, une bonne vingtaine de secondes, j'étais très très heureux et à partir de là, j'ai commencé à être terrorisé. Je pensais qu'il s'était trompé, qu'il aurait jamais dû, que ça allait être une catastrophe.
Vous aviez tout foiré.
Ça allait être l'humiliation de ma vie, que je serais viré au bout d'une semaine de tournage, etc. Donc la seule chose que j'ai trouvée pour me rassurer, c'était de travailler un peu. Et donc j'avais affiché le texte partout dans ma chambre pour que chaque fois que je lève les yeux ou que je pose le regard quelque part, je tombe sur une phrase du dialogue pour commencer à rêvasser un peu tout ça.
T'es content toi? Ne pas se réjouir d'un gars, ne pas s'attrister d'une perte.
T'es rien, une petite gêne. Un caillou dans une chaussure, un poil de cul coincé entre les dents. T'es basse, poil de cul.
Si fin soit-il, le cheveu aussi a une ombre.
Et tu fais chier avec tes proverbes chinois.
Qui est au-dessus de toute colère s'exprimera par la non.
Putain!
Alors moi, je me souviens d'une séquence et ça m'a donné envie de le goûter. Mais bon, c'est pas donné, donc j'ai peut-être pris un deuxième cru. C'est le fameux Gruau la Rose. Je pense que le film a contribué beaucoup à la popularité de ce Saint-Julien, hein, si je me souviens bien.
Mais est-ce qu'il en avait besoin déjà ?
Peut-être pas, mais en tout cas, ça l'a popularisé. Ça l'a popularisé. Ouais. Avez-vous été récompensé par la maison ? Vous a-t-on offert des caisses de Gruau la Rose ? Êtes-vous amateur de Gruau la Rose ? Parce que les fameuses deux bouteilles... Gruau la Rose, du film.
Moi, j'aime beaucoup le Bordeaux. Oui. Alors, non, je n'ai pas été récompensé, mais j'en tiens rigueur à personne ni à rien. D'abord, c'est Étienne qui a écrit et Laurent Chouchan qui ont écrit le scénario et c'est eux qui ont décidé de placer ce
Gruau la Rose.
Cru, voilà. Donc, c'est eux qui devraient être remerciés. Mais oui, non, j'aime ça. J'aime le Bordeaux, j'aime le vin. J'ai pas de, c'est un peu au-dessus de mes moyens peut-être.
Ouais, c'est pas donné.
Ouais.
Mais il y a des seconds crus qui sont.
Il y a des seconds crus qui sont abordables.
Plus abordables.
Bonsoir maman.
Bonsoir mon chéri.
Bonsoir papa. Bonsoir. Dis donc, c'est toi qui a embarqué les deux bouteilles de Gruau la Rose?
Je sais pas.
Ah oui, peut-être quand j'étais chez Lucas, j'ai pas fait attention à ce que je prenais.
Oui. C'est bien ce que je te reproche.
Tu dînes ici?
Non, je suis pas très faim. Je grignoterai plus tard.
Alors bien sûr, là aussi, vous l'ignoriez en 2001, que Tanguy allait devenir, ce prénom allait devenir un nom commun,
ouais.
Et une expression. Et ça, c'est quand même incroyable. Donc un Tanguy.
Moi, je ne me sens pas responsable du tout, parce que moi, j'ai enfilé le costume, j'ai appris mon texte, j'ai pris mes places. Et puis quand ça a été fini, on s'est dit au revoir, puis ça a été fini. Et pour d'autres gens, ça reste encore très présent, ça m'étonne encore à chaque fois.
Et j'ai trouvé d'ailleurs, toujours en faisant mes recherches, qu'il y a d'ailleurs un jeune homme aujourd'hui qui s'appelle Tanguy Berger. Il y a
ah
un
oui
Tanguy Berger. Ouais.
Ah oui, Ah, pas de bol. Non, parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'on avait flingué le prénom avec, ouais, avec Étienne pour quand même quelques millénaires, je pense. Et il se trouve que je crois qu'en 2018, il y en a encore six. Il y a encore six prénoms Tanguy qui ont été donnés à des enfants.
Quand des spectateurs vous reconnaissent, ils vous appellent davantage Tanguy qu'Éric.
Oui. Oui, oui, c'est normal. Je suis même assez surpris quand certains m'appellent par mon nom, parce que je me dis, oh, ils ont dû faire un petit effort pour... Et donc c'est touchant. Ils ont dû faire un petit effort pour se rappeler du nom, parce qu'on se rappelle plus de Tanguy que d'Éric Berger, ouais. Et c'est normal, ouais. Et tant mieux, parce que moi pendant ce temps je suis tranquille, j'ai la paix. On s'intéresse à Tanguy, donc pendant ce temps là Éric Berger il dort.
C'est vraiment agréable cet appartement. Je crois même que je le préfère à l'ancien.
L'autre était quand même exceptionnel, Tanguy.
Oui, il était plus grand, c'est vrai. Mais celui-là est plus intime.
Mais la vue, tu te souviens de la vue?
Justement, on sent plus protégé. Comme dans un cocon. Je t'aime, papa.
Moi aussi, mon poulet.
Et je t'aime, maman.
Moi aussi, je t'aime.
Promis?
Promis.
Et il y a eu un revival avec le Tanguy de retour en, ouais, en 2019.
Ouais,
donc il y a peut-être un redémarrage des prénoms. Ah, ça a été un plaisir de vous retrouver.
Ah oui, ça a été dingue, c'est dingue. Cette sensation aussi, c'est un truc unique.
De retrouver ses parents.
Ouais, ou des partenaires, des camarades de jeu. C'est-à-dire parce que tout de suite, dès le premier mot moteur, on a repris nos sacs exactement où on les avait posés, avec la même... gourmandise et la même coquinerie, si je puis dire, et peut-être même davantage, puisqu'il n'y avait plus de round d'observation, il n'y avait plus de sentiment d'inquiétude, il y avait aucune inquiétude.
Vous y êtes allé, alors là, vous n'avez plus affiché le texte sur les murs, vous y êtes allé plus décontracté ?
Un petit peu plus, ouais. Un petit peu plus décontracté. Après, c'est sérieux, comme on dit. La comédie, c'est sérieux, parce que pour faire la fête, il faut l'organiser très, très correctement. Donc, ça se prépare avec beaucoup de minutie, quand même. Ouais. Mais oui, disons que c'est la mauvaise inquiétude qui avait disparu. C'est celle qui, une fois qu'elle a disparu, laisse la place au travail, mais pas le travail, pas le labeur, le travail joyeux, quoi, le travail qui est libérateur, qui s'exprime tout seul, quoi.
Alors, et pour compléter la belle histoire, c'est sur le tournage de Tanguy que vous avez rencontré votre épouse,
oui,
Bérangère.
Oui, en Chine. Bah oui, ça c'est quand même...
La nièce de la monteuse.
Exactement. Qui a eu la bonne idée de venir à Pékin avec sa nièce, puisqu'elle avait un voyage payé par le, et puis un logement payé par la production, qui était folle de joie du travail qu'elle avait fait. Ouais, Catherine Renaud.
Près de la cité interdite, l'amour ne le fut pas. Interdit.
Ah non, pas interdit, non. Non, heureusement.
Oui ? Je vous entends mal, qui est là ?
C'est qui ?
Je sais pas. Allô ? Tanguy ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous faites là ?
Béline m'a quitté.
Oh mon Dieu, c'est pas vrai.
Sans déconner.
Elle est partie.
Oh mon pauvre chéri.
Quand on vous entend parler mandarin, hein, dans le film, on a l'impression que vous maîtrisez drôlement la langue. Hein.
Ah, chouette. Non, mais ça, vous dites ça parce que vous êtes français, mais je crois qu'il y a quelques Chinois qui rigolent encore. C'est pareil, j'ai fait mon possible. Il n'y a rien de plus rigolo pour un rôle que d'apprendre quelque chose, que ce soit, je sais pas, du cheval, la moto, conduire un camion, un bateau, apprendre à jouer, je sais pas quoi. Et là, donc, ouais, moi, c'était apprendre le mandarin. J'ai trouvé ça très, très dur. Je trouve que c'est très, très difficile. Cette histoire de ton, c'est pour un occidental, je crois que c'est pas simple. Je trouve que les tons sont, moi, je les trouve plus compliqués que l'idée de l'idéogramme lui-même. C'est un concept plus facile à appréhender que la gestion des tons.
Aujourd'hui, votre plaisir premier, c'est le théâtre. Enfin, tous les plaisirs, mais disons que le théâtre est très important.
Le théâtre est très important.
Vous avez un très grand metteur en scène.
Ouais. J'ai travaillé avec Jules Lavaudant, j'ai travaillé avec Alain Françon, entre autres, pour ne citer que. J'ai fait six créations
avec Didier Bezaz,
paix à son âme, avec Bruno Mayen, pareil aussi.
Au tout début, avec Isabelle Nanty.
Avec Isabelle, ah oui, mais Isabelle, ça a été une sorte de. C'était la fée clochette. C'est Isabelle qui m'a présenté à Étienne Chatillaise. C'est Isabelle Nanty qui a dit à Étienne, je connais un type qui pourrait coller pour le rôle. Donc elle a été présente, en tout cas au début de ma carrière, d'une façon très très active. Et je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul parce que je crois que si on interroge tous les Robin des Bois, ils diront à peu près la même chose. Et puis peut-être il y a tout un tas d'autres gens qui sont passés entre ses mains, si je puis dire, et qu'elle a façonné ou pas. Bon, façonné, c'est un vilain mot, mais qu'elle a en tout cas guidé d'une manière très jolie. C'est toujours. Mais c'était un prof formidable à Florent, Isabelle.
Puisque vous êtes passé par le cours Florent.
Ouais.
Vous espérez habiter le temps longtemps.
Oui.
Déjà que cette pièce se joue à Paris aussi, je pense.
Oui.
C'est calé, c'est prévu.
A priori, je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler, ou si c'est calé à ce point, mais normalement, on devrait reprendre au rond-point au mois de janvier 21. Non, puis même la tournée, tout ça, j'espère vraiment. J'ai vraiment hâte de la faire entendre. J'ai vraiment hâte de moi aussi de m'y habituer, c'est-à-dire cette mécanique s'inscrive et se rôde au contact du public. Ouais, j'ai vraiment. Il y a vraiment besoin de pratique, en fait, pour que ça s'envole un peu.
Là, vous avez, pour ces deux représentations, beaucoup répété à Nancy, je crois, répété ici à Luxembourg. Faut-il un sas avant de jouer cette pièce-là? C'est-à-dire, je ne sais pas, vous ne pouvez pas aller faire des courses jusqu'à 19h30 et arriver au théâtre une demi-heure avant, enfiler le costume et jouer. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous.
Ça dépend, un peu aussi de l'état de la journée, de votre état d'éveil ou de fatigue, ou de machin, etc. Mais... Le sas, je ne sais pas quoi vous dire, mais c'est plutôt un quart d'heure avant que ça commence vraiment à se préparer. Mais il y a tout, enfiler son costume, le temps du maquillage. Par exemple, Jérôme Kircher a un temps de maquillage très très long pour lui mettre.
Parce qu'il est défiguré, le personnage est défiguré.
Tout ça, ça participe beaucoup à la préparation à l'entrée en scène. Mais sinon, un peu mentalement, il y a un moment, c'est un quart d'heure, entre un quart d'heure et cinq minutes avant pour. On peut aller faire des courses avant, c'est pas grave.
C'est ça. Vous les connaissiez, Jérôme Kircher et Irène Jacob?
Non, Irène, non. Enfin, je la connaissais comme ça de loin parce qu'on s'était croisés une fois
Jérôme
ou deux.
Jérôme Kircher qui est nancéen, lui.
Ouais, avec Isabelle Carré, mais grâce à Isabelle Carré. Mais Jérôme, j'avais joué avec lui en 2006 dans une pièce d'Emmanuel Bourdieu, une pièce sur le football qui s'appelait Le mental de l'équipe, mis en scène par Denis Podalydès et Frédéric Bellier-Garcia. On avait joué ensemble, on avait joué au rond-point, on avait créé ça à Amiens. Et on s'était bien marré là-dessus, ensemble. J'étais très, très heureux de le retrouver. Et Irène, c'est une partenaire formidable, c'est une actrice incroyable.
C'est votre partenaire?
Oui, c'est ma partenaire. Vôtre, ouais. Vraiment, moi, j'ai l'impression en la regardant travailler, j'ai l'impression que je lui dois pas mal de choses sur le... Je sais pas comment dire, sur la direction artistique ou stylistique du rôle. Je sais pas. Il y a un moment, je l'ai regardé faire et elle m'a emmené dans des zones où je me suis dit que ce serait joli d'aller avec le rôle.
D'autant que c'est encore peut-être davantage même particulier. Enfin, je sais pas, je ne me souviens pas, peut-être pas à ce point-là précisément. C'est votre duo. Et parfois, vous êtes très loin l'un et l'autre sur la scène.
Comme si on était seul.
Oui,
ça peut être.
Ça, bien sûr.
On est loin.
Ce n'est pas le cas
de
tous les duos de la pièce.
Ah, moi, je n'ai pas fait attention.
Par exemple, Jérôme Kircher et sa partenaire, souvent, ils sont proches, ils sont à une table. Parce que vous êtes d'un bout à l'autre de la scène, seul sur scène, mais il y en a quatre autres.
Peut-être parce que nous, c'est une histoire qui est en fin de course et que celle de Jérôme et de Julie Pilot est une histoire en début de course. Peut-être du coup, ils ont besoin de se rapprocher, que nous, on a eu besoin de s'éloigner un petit peu. Ouais.
Bon, et pour notre rencontre, on est en fin de course aussi. Merci beaucoup, Éric Berger.
Merci à vous. Merci bien.
Bravo et merci. Bravo et merci, Éric Berger, à l'affiche de la pièce de Rasmus Lindberg, Habiter le temps, qui repartira en tournée au cours de la saison 2021-2022. Et Éric Berger, 20 ans après et pour toujours, Tanguy dans les deux films d'Étienne Chatiliez. Merci Yasmine Kaufmann, Relations Presse au Théâtre de Luxembourg, pour l'organisation de cette rencontre. Réalisation Roman Feocchio. Respect et chapeau.